Chapitre 14, dernier tableau. Trois mois se sont écoulés. Nous sommes au mois de décembre de cette même année 1838 et nous trouvons Paris fort occupé, comme il l'est souvent, d'une affaire de cour d'assises. Une cause appétissante, une cause célèbre, l'emmurement de la rue de Jérusalem. L'accusé était par lui-même un personnage suffisamment romanesque, un beau jeune homme, doué de manières douces et distinguées, qui avait eu pendant assez longtemps accès dans un monde difficile et qui, dans ce monde, avait produit une certaine sensation. Un prince, un prétendant, un imposteur sans doute, mais en France, le faux Démétrius sera toujours beaucoup plus intéressant que le vrai. Outre ce crime d'espèce hyper dramatique, l'assassinat de M. Jean Labre, emmuré dans la vieille tour faisant le coin du quai des Orfèvres et de la rue de Jérusalem, il y avait à la charge de Louis-Joseph Nicolas, dit le prince ou le duc de Bourbon, plusieurs autres méfaits, parmi lesquels on distinguait le meurtre de la veuve Thérèse Soulas, si bien connue dans le quartier de la préfecture. Ce meurtre avait eu lieu au loin, en Normandie, où le prétendu fils de Louis XVI avait été le héros d'un roman très original. Nous avons dû le dire déjà, Mathurine Gorret et sa légende ne sont pas à la portée des imaginations parisiennes. Les cancans badauds avaient transformé la sordide de Maintenon de l'Orne en une intrigante à trois poils, jolie, spirituelle, ambitieuse, une manière de Diana Vernon normande qui ne faisait pas mal du tout dans l'histoire. Les uns lui donnaient 20 ans, les autres 40. C'était une ingénue ou une grande coquette. L'ingénue était morte d'amour, la grande coquette avait été poignardée. Dans l'une et l'autre version, la conspiration venait admirablement. Mais ce qui émoustillait surtout les amateurs, ce que nous avons gardé pour la bonne bouche, c'est que l'assassin de Jean Labre et de Thérèse Soulas passait pour être affilié à ce groupe de mystérieux malfaiteurs qui jamais n'avait satisfait la curiosité publique en s'asseyant sur les bancs de la cour d'assises, les habits noirs. On disait que le faux prince était un habit noir, un maître, peut-être même était-ce l'habit noir, le grand chef des frères de la Merci. L'attente générale, du reste, ne devait pas languir longtemps. La session était commencée et l'affaire du faux prince arrivait une des premières au rôle. Le 11 décembre, veille du jour où l'assassin de Jean Labre devait comparaître devant ses juges, on payait Saint-Louis les places réservées chez le brave Chavot, marchand de faveur d'audience, qui demeurait alors au coin de la rue de Glatigny, à 15 pieds sous terre. Il était poli avec les dames. Voici ce qui arriva vers 9 heures du soir par un temps sombre et froid qui mettait le nez des passants sous leur manteau. Un fiacre s'arrêta au coin de la rue Harlay du Palais sur le quai des Orfèvres. 2 hommes en descendirent. L'un d'eux paya le fiacre et s'en alla. Les 2 hommes attendirent quelques minutes. Il y en avait un grand et un petit. Le grand, bien campé, était boutonné dans un gros paletot. Le petit tremblait de froid sous une douillette de soie noire ouatée qui le faisait ressembler à un vieux prêtre. Ils marchèrent ensemble vers la rue de Jérusalem. Le grand fredonnait, le petit grelottait, disant « Que veux-tu, l'amitié? J'avais un faible pour ce garçon-là. Il avait de l'économie. Je lui aurais donné ma petite fanchette avec plaisir. Est-ce bien décidé? Voyons. » Un imbécile, gronda le grand. L'affaire Champmasse manquait, l'affaire Gorret. Est-ce qu'il fallait attendre l'apoplexie? Papa, c'est réglé, on le liquide. Le petit laissa échapper un gros soupir. Ils tournèrent le coin de la rue de Jérusalem. Quand ils passèrent sous le réverbère, vous n'eussiez certes point reconnu cet excellent colonel Bozzo, non plus que son compagnon, monsieur Lecoq de la Perrière. Tous deux étaient grimés mieux que des comédiens. Le coq demanda à un garçon du père Boivin la chambre numéro 9. Prise, répondit le garçon, il y a le 7 et le 8. 2 litres au 8, 2 jambons et 2 bris. Le 8 était l'ancienne chambre de Paul Labre, le numéro 7 l'ancienne gargote de maman Soulas, le numéro 9 la chambre de Gautron à la craie jaune. Le père Boivin, redoutant désormais les soupes rivales, avait, depuis le départ de Thérèse Soulas, transformé tout le dernier étage de son immeuble en cabinet particulier. Le coq aida le vieux colonel à monter. « C'est une drôle d'histoire, papa, dit-il, quand on fut dans la mansarde. Le frère cadet était ici où nous sommes. Le frère aîné entra là, porte à côté. Le hasard. C'était cet idiot de Nicolas qui vous avait mis en tête la manie des grands plans, combinés avec des mélodrames à compartiments. Le général qu'on devait tuer se porte bien, je l'ai vu hier avec sa petite fille, Corbiche. Elle est mignonne à croquer, malgré le plongeon là-bas sous le pont-neuf. Moi, je ne combine pas de plans, mais vous allez voir comme l'opération va rouler. » Le garçon entra avec les objets demandés. On lui ordonna de ne point revenir. Le coq ferma la porte et dit « Papa, j'aime les marrons tout tirés du feu. Monsieur Paul Labre va encore nous servir. Il est là, au numéro 9, qui fait ses affaires et les miennes. Un joli garçon, hein? Voilà du temps que nous nous connaissons tous deux, et sa carte d'inspecteur est de vieille date. » Il revint s'asseoir auprès du colonel et tira sa montre. « Dans une demi-heure, reprit-il, ce sera notre tour. Attendons. » De l'autre côté de la cloison, dans cette chambre sinistre où Jean Labre avait été égorgé, il y avait quatre hommes réunis. Les trois premiers portaient de misérables costumes. Le quatrième avait une toilette tout battant neuve, redingote propriétaire d'un drap noisette super fin, pantalon écossais à carreaux, bottes vernies et chapeau de soie luisant comme du jais. Il était jeune. Les autres avaient de l'âge. Il était fier, souriant, radieux. Les trois autres avaient la tête basse, l'œil triste et craintif, le dos voûté, les jambes tremblantes. Ils se ressemblaient tous les trois par leur abattement profond. Ils avaient l'air de trois oiseaux de nuit qu'on eût arrachés de leur trou et portés tout à coup en pleine lumière. Nous avons vu une fois déjà ces trois hommes au même lieu, accomplissant l'acte qui faisait maintenant leur trouble et leur épouvante. Ils avaient nom Coyatier, dit le marchef Landerneau, dit 33e, et Lambert, dit Cotterie. Comme l'autre fois, ils étaient munis d'instruments, les mêmes. Coyatier avait son pic, Cotterie ses ustensiles de maçon, Landerneau ses outils de menuisier. Le jeune homme élégant était notre ami Pistolet. Son riche costume ne lui allait peut-être pas à merveille, sa redingote le gênait aux entournures. La vilaine peau de sa joue glabre regrettait un peu le voisinage du col bleu de sa blouse et le drap de sa casquette pelée, mais il était content de lui-même au plus haut point, et, à la place du berger Paris, laissant les trois déesses ex aequo, il eût certainement gardé pour lui le prix de la beauté. « L'aspect de la localité vous incommode, dit-il aux trois autres, après un silence et d'un ton véritablement oratoire. Je conçois ça. J'ai aussi un tantinet « le trac », comme elle disait à Bobineau, quoique n'y ayant pas participé à la sanglante péripétie du soir que je fis la fin du matou à maman Soulas. J'avais les passions de cet âge-là, les femmes et la limonade, ça aurait pu me mener loin. Mais, minute, je m'ai extirpé, mèche malgré la force de mon inclination. » Il soupira et poursuivit. Faut savoir se couper un corps. M'étant rangé par l'héritage du bancroche et ma position de son seul tuteur, pour plus d'un milliard de rentes dont nous jouirons tous les deux dans la haute société. Soyez calme, on pourrait vous faire du chagrin, c'est sûr, mais j'ai déjà assez taquiné le marchef le long du bateau à charbon par mes têtes et renfoncements qu'il n'y voyait que du feu sous l'eau. Je ne lui en veux pas. Vous êtes un bon petit jeune homme, monsieur Clampin, gronda le marchef avec une feinte humilité. Aussi, vous voyez qu'on est venu à votre invitation. Pas si gaiement qu'à la noce, dites donc. Vous êtes tous trois retirés du commerce. Ça vous démange, l'envie de rentrer dans le sein de vos familles. Attention, je vous ai relancé pour obliger monsieur Paul Labre. À ce mot, les trois misérables eurent le même frisson. Le Pistolet continua en se posant. C'est un jeune baron de mes amis, moins fortuné que nous deux le bancroche, mais bon enfant, comme quoi j'ai consenti à délaisser pour un instant mon pupille, dont je fais son éducation de fond en comble avec tous les premiers maîtres, pour lui apprendre les sciences et à lire. J'ai dit, puisque j'ai commencé cette affaire-là sous monsieur Badois, je la perfectionnerai, monsieur le baron consentant à ce que les trois gredins aillent se faire pendre ailleurs, pourvu qu'ils mettent sa conscience en repos en lui nommant le vrai coupable de la malheureuse catastrophe de son frère aîné. Ça ne se peut pas, interrompit Coyatier d'un air sombre. On est tenu par le cou, ajouta Cottery. Et Landernau s'écria, autant se jeter par la fenêtre, la tête sur le pavé. Et aussi, poursuivit paisiblement Pistolet, en mettant le même Paule Labre à proximité de recueillir les restes mortels de son même frère pour lui rendre enfin les derniers devoirs des pompes funèbres, marbriers et concessions à perpétuité au Père Lachaise. Nous savons que le corps n'est pas sorti d'ici. Les trois bandits se regardèrent. Sans quoi, conclut Pistolet, rendez-vous général au parquet du procureur du roi. J'ai tout dit. On vous donne 3 minutes pour réfléchir mûrement. Le marchef releva la tête et sa prunelle le rendit un fauve éclat. Bon, fil gamin, tu as encore du sang dans les yeux, malgré ta profession paisible de faire téter du poison aux vieilles femmes. Je la connais, ta licherie. Mais sois calme, monsieur Badois est en bas, à la besogne. Les trois misérables hésitèrent encore un instant, puis le marchef dit « Allons, faut passer par là. Avant que Toulonnais sache la chose, on aura peut-être le temps de filer en Angleterre. » Landernau, sans prononcer une parole, attaqua la boiserie. Le panneau situé auprès de la fenêtre du côté de l'ancienne mansarde de Paule Labre fut désarticulé en un clin d'œil. Pendant cela, Cottery versait de l'eau dans son auge et tenait le plâtre prêt. Coyatier donna le premier coup de pic dans la muraille nue qui sonna le creux. En ce moment, on frappa à la porte du carré. Les trois bandits s'arrêtèrent et firent front comme des animaux féroces qu'on viendrait relancer dans leur cage. Coyatier se ramassa sur ses vigoureux jarrets et dit « Petit, si tu nous as vendus, ton compte est fait. » Pistolet se prit à rire et alla ouvrir la porte en disant « J'achète et je ne vends pas, butor que vous êtes. À bas les mains !» C'est le frère de la victime qui vous accorde la permission d'aller vous faire guillotiner plus loin, à cause qu'il vous méprise comme de vils instruments, et moyennant des aveux complets nécessaires à la punition du grand coupable en chef. Il ouvrit. Paule Labre entra, suivi de Badois qui portait une forme de boîte oblongue. La chambre était si petite qu'une fois la porte refermée, les nouveaux arrivants touchaient presque les bandits. La première fois que Coyatier avait attaqué le mur, 3 ans auparavant, il avait eu à faire une besogne longue et difficile. Aujourd'hui, ce fut bien différent. Quelques coups de pique brisèrent la mince couche de plâtre et mirent à nu les ossements rongés par la chaux vive. Ce n'était déjà plus un squelette. Paule Labre, le front pâle et couvert d'une sueur froide, commença son interrogatoire. À ces questions, les trois assassins répondirent nettement, avec une sorte de respect. Le résumé de leur déclaration se peut faire ainsi. On attendait le général comte de Champmas, un jeune homme vain qui fut égorgé à sa place. L'homme s'appelait Jean Labre. On avait appris cela par les papiers trouvés dans sa valise. Le lendemain, à l'aide de ces papiers, Landernau, dit 33e, avait eu l'audace de se présenter chez maître Hébert, notaire, rue Vieille du Temple, pour se faire délivrer un lait appartenant à la victime. Le partage des valeurs contenues dans la valise avait permis aux trois bandits de se cacher et de pratiquer diverses industries. Ils affirmaient avec conviction qu'ils étaient devenus honnêtes gens. Néanmoins, ils avouaient avoir levé mensuellement un tribut sur le véritable entrepreneur du crime, M. Nicolas, dit le prince ou le duc de Bourbon. C'était une scène étrange, car pendant qu'ils parlaient, M. Badois et Pistolet recueillaient avec soin les débris humains entassés dans le trou et les plaçaient dans la boîte oblongue. Quand cette tâche fut terminée, Paule Labre prit lui-même la boîte et sortit sans prononcer une parole. M. Badois le suivit. Et Pistolet, avant de les imiter, dit « J'ai fait déjà pincer une fois le marchef, c'est assez, n'ayant jamais appartenu au gouvernement. J'ai fréquenté Madame Landernau honorablement, elle est belle femme. Monsieur le baron n'irait peut-être pas jusqu'à se gêner pour vous cueillir si on avait besoin de votre témoignage en justice. C'est de vendre vos frusques et d'aller vers d'autres rivages, voir si le printemps s'avance. » Je vais souper à 30 francs par tête dans un cabinet particulier avec le banc croche et des dames de la première noblesse. J'ai besoin de ça pour me remettre, n'étant plus habitué à vos odeurs du peuple. Bonsoir. Si vous me rencontrez dans la rue, priez de ne pas me saluer. Les trois assassins restèrent seuls et comme abasourdis. Le marchef se remit le premier. Il redressa sa taille d'athlète, racornie par la terreur, et s'écria « Sont-ils bêtes ?» Cotterie et Landernau échangèrent une poussée en témoignage de leur allégresse. « En besogne, ordonna Coyatier, le badois pourrait revenir, bouchons ça en deux temps, et à la baraque !» Le plâtre frémit aussitôt dans l'auge de Cotterie, tandis que Coyatier et Landernau préparaient le panneau. Ils travaillaient déjà avec un entrain admirable lorsque la porte s'ouvrit pour la troisième fois, donnant passage à deux hommes, un grand et un petit. « Un instant, mes agneaux, » dit le plus grand des deux hommes, dont le large visage disparaissait presque sous les bords de son feutre mou. « Il fait jour !» Ce fut comme si la foudre fût tombée au milieu des trois assassins. « Toulonnais !» firent-ils tous à la fois, avec un accent d'indicible terreur. « Bonsoir, mes enfants, bonsoir !» dit à son tour le plus petit des nouveaux arrivants. « Le père à tous !» murmurèrent les bandits tremblants. Ils avaient conscience de leur trahison, ils savaient que jamais le châtiment ne se faisait attendre. Monsieur Lecoq ajouta, « N'ayez pas peur, vous allez trop vite à l'ouvrage, voilà tout. Puisque nous avons ici une armoire vide, nous allons y mettre quelque chose avant de la fermer. Eh, pas vrai, papa ?» En quittant la rue de Jérusalem, la voiture de Paul Labre se dirigea le long des quais vers le faubourg Saint-Honoré, où était situé l'hôtel du général, comte de Champmas. Depuis quelques semaines, le général avait obtenu l'autorisation de résider à Paris. Quant à Paul lui-même, son arrestation avait été suivie d'une mise en liberté immédiate. L'intrigue, si laborieusement ourdie contre lui, se dénouait d'elle-même, parce que la main qui avait tendu le piège s'était retirée. Le fils de Saint-Louis, prisonnier, ne pouvait plus rien. Et les anciens complices de cet homme avaient intérêt à détruire son œuvre. Il était environ 10 heures du soir quand Paul se fit annoncer chez le général. Il fut introduit sur-le-champ. « Comme vous êtes pâle, » lui dit monsieur de Champmas en lui tendant la main. « Monsieur le comte, » répliqua Paul, « je viens vous faire mes adieux. J'ai rempli aujourd'hui le dernier devoir qui put encore me retenir à Paris. Demain, je pars. Et où allez-vous, baron ?» Tout en faisant cette question, le général, pesant sur la main de Paul, l'attira vers le canapé placé au coin de la cheminée. Ils s'assirent tous les deux. Paul Labre répondit, « Je ne sais, loin, très loin. » « Et pour ne jamais revenir, » prononça le général à voix basse. Paul répéta d'une voix triste, « Pour ne jamais revenir. » Monsieur de Champmas lui serra la main de nouveau et se borna à dire, « « Baron, vous laissez ici de bons amis. » Il y eut un silence. Paul Labre avait les yeux baissés, le général l'examinait à la dérobée. « Voulez-vous me dire quel devoir vous avez accompli, baron ?» demanda tout à coup monsieur de Champmas. Paul tressaillit, comme si on l'eût arraché à un rêve. Quand il prit la parole pour raconter ce qui venait de se passer dans la maison de la rue de Jérusalem, un peu de rouge monta à sa joue. « J'avais besoin, dit-il en terminant, d'acquérir une certitude au sujet de la culpabilité de cet homme. C'est moi qui l'ai arrêté, je suis vis-à-vis de lui comme un juré, son innocence m'eût condamné. » Pendant qu'il parlait, le général le regardait toujours. « Paul, dit-il, mon pauvre Paul, vous êtes un malade d'esprit et de cœur. » Et comme le jeune homme relevait les yeux sur lui, il ajouta « J'ai bien un peu le droit de me mêler de cette affaire, puisque c'est moi que les coquins voulaient frapper. Vous êtes allé chercher la vérité au fin fond de l'enfer. Votre âme est digne et bonne. Mais laisser vivre un assassin, c'est se rendre complice des meurtres qu'il peut commettre dans l'avenir. » Paul resta froid et murmura, « Il se peut, cette idée-là m'est venue. » « Et pensez-vous, poursuivit monsieur de Champmas, que le témoignage des trois instruments du crime ne soit point nécessaire au châtiment du vrai coupable ?» Paul baissa la tête et ne répondit point. « Vous partez, » continua encore monsieur de Champmas, « avant même de savoir si votre frère sera vengé. » Les deux mains de Paul couvrirent son visage. « Je n'ai pas besoin qu'on me le dise, » prononça-t-il d'une voix très altérée. « J'ai souvent eu peur d'être fou. » Mon frère me voit, sans doute, il aura pitié de moi. Le voilà qui va dormir en terre sainte, et moi j'irai si loin, si loin. « Cela s'appelle fuir, monsieur le baron, » interrompit brusquement le général, « et fuir est d'un lâche. » Le sourire de Paul exprima une mélancolie profondément découragée. « Oh, fut-il, vous ne pouvez pas me blesser, vous dites vrai, toute ma vie j'ai fui. Le jour où j'ai sauvé Suavita, j'essayais de fuir jusque dans la mort. » « Et Suavita vous sauva, » murmura monsieur de Champmas. Le regard de Paul sembla chercher quelque chose au lambris. Il y avait eu jadis trois portraits dans le salon de l'hôtel de Champmas, celui de feu la comtesse et ceux des deux sœurs Isole et Suavita. La boiserie gardait une marque carrée qui indiquait la place où le portrait d'Isole n'était plus. Les yeux de Paul se remplirent de larmes. Le général fronça le sourcil. Paul n'y prit point garde et murmura « Où est-elle à présent? Que fait-elle ?» C'était une très grande pièce meublée de velours sombre. Le portrait de la mère et celui de la fille se faisaient face, et toutes les portes étaient closes, excepté une qui s'ouvrait vis-à-vis de la cheminée. Le silence qui suivit laissa entendre un bruit au-delà de la porte. C'était comme la respiration d'un enfant endormi. « Paul, dit le général, si vous aimez encore celle qui n'est pas digne de votre amour, je ne vous retiens plus. Adieu. » Puis il se leva dans un mouvement de colère. Paul l'imita. « Adieu, » murmura-t-il à son tour. Et tandis qu'il s'éloignait lentement, il ajouta « Soyez bien heureux, elle surtout, la chère, la douce enfant qui me rattacha un jour à la vie. » Paul avait la main sur le bouton de la porte. Dans la chambre voisine, il y eut un cri faible et douloureux. Le général s'élança et disparut. Paul ne lâcha point le bouton, mais il se prit à écouter. On aurait pu entendre les battements de son cœur dans sa poitrine. « Qu'as-tu, chérie ? » demanda le général dans la pièce voisine. « Père, répondit une voix qui était mélodieuse comme un chant, « tu as bien fait de mettre ainsi mon lit près de toi, et tu fais bien de ne me quitter jamais. Dès que je m'endors, j'ai ce rêve cruel. » Je les vois, tous deux. « Tais-toi, » interrompit tout bas monsieur de Champmas. La main de Paul quitta le bouton, et il fit un pas dans l'intérieur du salon. « Pourquoi me taire ?» murmura la douce voix. « Je me suis tue longtemps, bien longtemps, et peut-être qu'il m'aimerait si j'avais pu lui dire comme je l'aime. » Son père lui ferma la bouche d'un baiser. Paul étreignait son cœur à deux mains. Il entendit l'enfant qui disait encore « Père, écoute mon rêve, ce n'était pas celui de tous les jours. Je rêvais qu'il partait et que j'étais encore muette. J'offrais à Dieu ma vie pour une parole. Tout à coup, il s'est élevé une voix en moi, une voix qui n'avait pas besoin de mes lèvres et qui lui disait tout au fond de mon cœur, « J'ai vécu par vous, est-ce par vous que je vais mourir ?» Paul, sans se rendre compte de son action, avait traversé le salon. Il était debout sur le seuil de la chambre à coucher. « Sortez, monsieur !» lui cria le général. Au lieu d'obéir, Paul continua de marcher et vint s'agenouiller près du lit. Suavita se pencha vers lui, souriante, et lui donna son front à baiser. Il n'y eut pas une parole prononcée, mais le général les réunit tous deux pressés sur sa poitrine. Vers ce même moment, le brillant et courtois vicomte Annibal Gioja des Marquis Palante courait les rues de Paris dans un simple fiacre dont le cocher était notre ancienne connaissance, Picpus, un des écuyers de la pauvre reine Gorée. Le charmant vicomte avait un compagnon qui semblait en proie à une allégresse folle. Il y avait de quoi, en vérité. Le compagnon était un noyé, sauvé de l'eau au moment où il perdait le souffle, d'années sorti de l'enfer. Le beau Nicolas, arraché à sa cellule de la conciergerie, par une de ces miraculeuses évasions dont les habits noirs seuls avaient le secret. « Mon cher garçon, disait-il, hier, quand j'ai entendu le surveillant murmurer à mon oreille ces bienheureux mots, « Il fera jour demain », je me suis dit tout de suite, « Le coq est mort, on a dû couper la branche. Est-ce le bon colonel qui a fait cela ?»« Le colonel est fin comme l'ambre, » répondit Gioja. « Ce lecoq tournait au tyran. « Comment l'a-t-on supprimé ?» Annibal répondit, « Madame la comtesse avait envoyé des cèpes de la forêt d'Andenne. Ils se sont trouvés vénéneux. »« Cette chère Marguerite !» s'écria Nicolas en riant. « J'avais déjà songé aux champignons là-bas. Le coq les aimait. Mais nous allons faire 10 lieues dans Paris, vicomte. » L'estor du fiacre était baissé. Hannibal répliqua, « On ne saurait prendre trop de précautions. » La voiture s'arrêta presque aussitôt après. La portière fut ouverte par Cocotte, qui était là en sentinelle, et qui dit, « Rabattez votre chapeau, relevez vos collets, il ne faut pas échouer au port. » Le beau Nicolas était prudent par nature. Il sortit du fiacre, tout occupé à cacher son visage et sans regarder à droite ni à gauche. On le poussa dans une allée noire et humide qui avait vaguement odeur de cabaret. Au bout de l'allée était un escalier tournant. « Où diable suis-je ici ? » demanda-t-il. « Rue Mauconseil, chez l'abbé, lui fut-il répondu. « L'abbé est bien logé. Montons. » On monta à 3 étages, une porte fut poussée et le faux prince se trouva dans une chambre de forme octogonale, très petite, où il y avait 5 hommes et un large trou pratiqué dans le mur. Sur les 5 hommes, 3 étaient armés de couteaux. Les 2 autres avaient des cravates noires sur la figure. À la vue du prince, ceux qui étaient armés de couteaux reculèrent terrifiés, et Coyatier dit « Monsieur Nicolas, un habit noir !» D'un mouvement pareil, le prince avait voulu faire aussi un pas en arrière, mais la porte par où il venait d'entrer était refermée. L'un des hommes masqués dit « Il fait nuit, coupez la branche !»«
Le coq !» balbutia le prince terrifié.
« Bonhomme, répondit le terrible Toulonnais l'amitié, c'est toi qui avais inventé le tour. Tu aurais parlé demain à l'audience. Nous t'épargnons la cour d'assises. Allons, marchef. » Quand 11 heures sonnèrent à l'horloge du palais, la chambre numéro 9 était en ordre et sa boiserie intacte ne présentait aucun indice révélateur. Longtemps après, en l'année 1843, le baron Labre d'Arcis et sa femme, Suavita de Champmas, reçurent une lettre de faire-part datée de Saint-Pétersbourg qui leur annonçait le mariage de mademoiselle Isole Soulas avec le prince Woronslow, aide-de-camp de Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies. 5 ans après encore, quelques mois avant la Révolution de 1848, Paul et Suavita firent un voyage à la Ferté-Massé pour visiter la tombe du général comte de Champmas, mort l'automne précédent. Il y avait une sœur de charité accoudée sur le marbre. Elle serra Suavita sur sa poitrine, tendit la main à Paul et s'éloigna sans prononcer une seule parole. C'était Isole, toujours belle mais morne, jusque dans le repentir. Suavita fut distraite en priant pour son père. Mais le soir, Paul l'amena par la main sur la pelouse du château de Champmas, où 3 beaux enfants blonds accoururent vers eux en secouant leurs chevelures bouclées. Et pendant que la jeune mère, car Suavita n'avait pas encore 26 ans, s'enivrait de baisers et de caresses, Paul lui dit avec le beau sourire des heureux, « Que Dieu lui donne la paix, comme il m'a donné le bonheur. » Fin des Demoiselles de Champmas, 4e partie des Habits noirs de Paul Féval.